Bonjour à tous. Alors le Seigneur m'a posé sur le cœur quelque chose qui est pas évident à comprendre et surtout pas évident à expliquer de manière vraiment compréhensive. C'est-à-dire que sans entrer dans une grande théologie. Alors si on a écouté les prières de ce matin, beaucoup ont dit « Seigneur, je voudrais te ressembler ». Ou alors, Seigneur, je voudrais être rempli de toi. Alors, comment ressembler à Christ? Comment être rempli de Christ? Ah, je pourrais vous faire toute une grande théologie, mais il y a quelque chose d'extrêmement difficile pour le chrétien de vivre pour en arriver à ressembler à Christ et à être rempli de Christ. Et je sais que beaucoup vont réagir quand je vais dire c'est la mort à soi-même. C'est la chose la plus compliquée et la plus difficile pour un chrétien. Mais c'est la chose que si elle n'est pas faite dans la vie d'un chrétien, c'est impossible de ressembler à Christ. Et c'est impossible d'être rempli de Christ. Essayez de remplir une bouteille d'eau qui est déjà pleine. Comment vous allez faire? Avant de la remplir, il faut la vider. C'est ça, le mourir à soi-même. Voilà, à dimanche prochain. Alors, quand on explique le mort à soi-même, on va dire, ben voilà, on prend une graine. Vous savez l'histoire de la graine pour donner une plante, il faut la planter, elle va mourir, elle va redonner une plante. Cette image est complètement fausse. Complètement fausse. Alors, Emmanuel, qui aime bien la science, va être entièrement d'accord avec moi. Si vous mourrez comme ça à Christ, vous ne serez jamais mort à vous-même. Parce que la graine, vous la prenez, vous la plantez, qu'est-ce qui va pousser? La même plante qu'il y a dans la graine. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Mourir en Christ, c'est-à-dire vous allez mourir, mais ce qui va pousser, la vie qui va pousser en vous est totalement différente de ce qui était avant. Et c'est ça que dans nos vies, on a du mal à comprendre. On a du mal à comprendre cette chose importante, mais ô combien difficile, mourir à soi-même. Combien d'entre nous se battent avec leur moi? Parce que j'ai décidé. Et on verra plus tard, Jésus ne force absolument pas. Absolument pas. La première chose, le premier point, c'est que, je vais vous apprendre une grande nouvelle, c'est que Jésus est mort à la croix. C'est incroyable, hein? Le message de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ est le point central de la parole de Dieu, de la Bible. Tout est orienté, aussi bien l'Ancien Testament que le Nouveau Testament, tout est orienté sur cette image. Et je ne sais pas si vous avez fait attention la semaine dernière et si vous avez été attentif, il y a Étienne qui a dit quelque chose d'extrêmement important. C'est nous trouver crucifié au même endroit que Jésus-Christ. Combien d'entre nous ont été crucifiés au même endroit que Jésus-Christ? En fait, quand la Bible met en évidence la réalité de la nature humaine, si je prends le psaume 14, verset 1-3, au chef des chants de David, « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu ». Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Le seul remède au problème du péché fut la croix. C'est le seul remède. Le seul remède pour le péché dans notre vie, c'est la croix. c'est pas seulement dans la position de regarder Christ sur la croix, mais c'est là où je rejoins Étienne. C'est être dans la même position que Christ sur la croix. Et c'est ça qui n'est pas du tout évident. Parce qu'on se crucifie au même titre, pas pour l'humanité, mais on se crucifie pour Jésus-Christ. Pour que Jésus-Christ fasse son œuvre en nous. Si on n'a pas fait ça dans notre vie, on n'est pas mort à nous-mêmes. Et cette croix, en fin de compte, ça enlève le péché. Quelle que soit la faute, quel que soit le nombre de fautes, le nombre, la gravité de ces fautes, elles sont enlevées par la mort de Jésus-Christ sur la croix. En Romains 3, verset 25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'ils avaient laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. On est justifié en Jésus-Christ. Propitiatoire revêt, en fin de compte, le terme de couvrir le péché. Expiatoire, c'est le fait de ôter le péché. C'est l'œuvre de Christ dans notre vie. Il couvre et il ôte le péché. Nos péchés ne sont plus visibles à la face de Dieu. Est-ce que ce n'est pas magnifique? En fin de compte, le sang de Jésus-Christ qui a coulé purifie l'individu, purifie le croyant. En 1 Jean chapitre 1 verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quelle magnificence! Il nous purifie de toute iniquité. Cependant, il y a une condition. Il y a une condition pour avoir ce remède divin. Il y a une condition pour avoir la vie éternelle. Et j'espère qu'on l'a tous fait. C'est une repentance profonde. C'est avouer et abandonner ses fautes à Dieu. Est-ce qu'on l'a fait? C'est vraiment une démarche de foi. En acte 3, verset 19, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Le Seigneur va nous donner la paix. Il va rafraîchir notre vie parce qu'il a donné son Fils pour nous. En fin de compte, sous cet angle, l'homme est invité à participer et à vivre la puissance de la croix qui permet de guérir les maladies et surtout d'être libéré des forces ténébreuses, libéré de Satan. Colossiens chapitre 2 verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La victoire qu'il a eue à la mort, quand il est mort sur la croix, elle a été totale. Elle a été totale dans le cœur des hommes, mais elle a été totale sur Satan. Satan ne pourrait jamais plus toucher les personnes qui vont croire en Jésus-Christ. Il pourra essayer, mais il ne pourra pas faire mourir quelqu'un qui a reçu l'Esprit de Dieu. En fin de compte, ça révèle réellement le rôle et l'impact de l'œuvre de Christ qu'il a fait par amour. Il ne l'a pas fait dans un sens de gagner quelque chose, de gagner les faveurs de son Père, puisqu'il est Dieu lui-même. Mais il l'a fait pour l'humanité. Il l'a fait pour toi et il l'a fait pour moi. Et en fin de compte, l'homme est devenu le bénéficiaire de cette œuvre. Et cette œuvre, on doit se l'approprier. Il est mort, Jésus, pour sauver l'humanité. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'il a fait de notre vie? Il a fait qu'on a un but maintenant. Il a donné un but à notre existence. Le but, c'est quoi? C'est la vie éternelle. ceux qui croiront en Jésus-Christ auront la vie éternelle. Bien sûr, ça ne se limite pas qu'à croire. Bien sûr, on pourrait dire, bah oui, je crois en Jésus, voilà. Est-ce qu'on pense réellement que ça se limite qu'à ça? Vous savez, on a chacun notre part de responsabilité devant le Seigneur. Et autant Jésus s'est donné sur la croix, autant que notre part de responsabilité, c'est de nous donner à Jésus. Donner notre vie à Jésus. C'est exactement l'image qu'a donnée Étienne. C'est de dire, ben oui Seigneur, toi tu es mort sur la croix pour moi, et ben moi je vais mourir sur la croix pour toi. C'est-à-dire, je ne vais plus exister. Et c'est là le plus grand des combats des chrétiens. Le fait de ne plus exister. En fin de compte, c'est extrêmement difficile parce que, je veux dire, pour l'homme, c'est de concevoir et de s'approprier la puissance de la croix. C'est de comprendre et vraiment ingurgiter la puissance de la croix. On se dit par exemple que, ben oui, le Seigneur m'a donné la foi, maintenant que je crois en Jésus, je suis sauvé. Certes, je suis d'accord. Mais la vieille nature est toujours présente. Elle est toujours présente. Et en fait, quand on a parfois dans nos vies cette notion de mort qui reste présente, parce qu'on a l'impression que notre vie n'a absolument pas changé. Pourquoi elle n'a pas changé? Parce que la graine qu'on a mise en terre, elle est morte, certes, mais la plante qui pousse est la même que celle qui était avant. En Galates 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Si je suis présent maintenant aujourd'hui dans mon corps terrestre, malgré cela, Christ vit en moi. » Voilà ce que ce verset est en train de m'expliquer. C'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. La question c'est, est-ce une réalité dans notre vie ce matin ? Le deuxième point, c'est que, et là on rejoint ce que Étienne a dit la semaine dernière, c'est le chrétien est et doit mourir à la croix. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu, et on le voit dans leur façon de vivre, il y a beaucoup de gens qui ont vécu se mourir à soi-même. Énormément de personnes l'ont vécu. Et il y en a d'autres qui ne l'ont absolument pas vécu. Et on verra plus tard comment on voit la différence. Si un chrétien reçoit Jésus, voilà, il dit « Je reconnais Jésus comme Sauveur et Seigneur », il n'exprime que la moitié de l'Évangile. Voyez ? C'est-à-dire que, bah oui, il croit en Jésus-Christ. Oui, je sais que Jésus-Christ est mort pour moi sur la croix. Mais la deuxième partie de l'Évangile nous dit qu'en fin de compte, oui, maintenant, j'aurais pu vous le dire, c'est en Jean 3, 30, il faut qu'il croisse afin que je diminue. Ça, c'est la deuxième partie de l'Évangile. C'est-à-dire, je lui laisse la place. Vous êtes tous, et on l'a tous dit un jour, moi le premier, « Seigneur, prends la première place dans ma vie !» Et un jour, notre Paul nous a dit, « Mais qui est à la deuxième? Qui est à la troisième? Qui est à la quatrième place dans notre vie ?» Mais non, Seigneur, prends toute la place. Et c'est ça qui est difficile à faire. C'est ça qui est difficile à vivre dans la vie du disciple, parce qu'on est tous disciples de Jésus-Christ. On a extrêmement de mal de dire, ben oui Seigneur, prends toute la place. Pourquoi ? Pourquoi on a du mal à le dire ? Parce que ça inclut une obéissance aveugle à la parole de Dieu. Aveugle. On ne peut pas recevoir le salut d'une façon parfaite si on n'a pas cette compréhension. Le plan divin du Seigneur pour nous ne s'accomplira pas si on n'a pas cette compréhension parfaite du mourir à soi-même. Si on ne laisse pas, en fin de compte, Jésus-Christ prendre toute la place. Et de quoi je suis en train de vous parler maintenant? Recevoir le Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit peut venir dans un être qui reconnaît Jésus-Christ, mais qui est plein? Seigneur, remplis-moi de toi. Ben, Pascal, je peux pas. Tu es déjà plein. Et surtout, n'oublions jamais, c'est que l'Esprit de Dieu ne se mêlera jamais avec les péchés qui sont dans nos cœurs. Donc on tourne toujours en rond. Est-ce que je me suis repenti d'une façon complète? Est-ce que j'ai pleuré sur mes péchés devant le Seigneur? Et si je l'ai fait, de quoi suis-je rempli aujourd'hui? Est-ce que j'accepte de me vider devant le Seigneur pour que lui nous amène son esprit et qu'il s'installe sur le trône de notre cœur? Parce que souvent sur le trône de notre cœur, je sais que José ne me contredira pas là-dessus, c'est notre moi qui est installé bien confortablement. Et surtout, ne me dérangez pas. Ça veut dire que l'œuvre de Christ doit être vécue d'une façon profonde, extrêmement profonde, et pas d'une façon superficielle. Il y a énormément d'acceptations qui doivent passer sur notre cœur. L'acceptation de servir de serpillière. Vous avez l'image de servir de serpillière? La personne qui est dans la rue, qui a marché dans les crottes de chien, et qui arrive ici au bord de l'église et qui suit les pieds. Nous, on doit être la serpillière. C'est ça, être disciple de Jésus-Christ. Si on lit la parole, Jésus-Christ a toujours vécu ça. Le rôle du Saint-Esprit dans nos vies, et c'est là où souvent on passe à côté, c'est de quoi, c'est qu'est-ce qui va faire l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Et souvent on le prie, Seigneur, je l'ai encore entendu ce matin, Seigneur, je voudrais te ressembler. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est qu'il va créer et développer la nature même de Jésus-Christ dans notre vie. Mais est-ce qu'on le laisse faire? En Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Est-ce que je veux être renouvelé complètement? Ou est-ce que je veux continuer à vivre ma petite vie? Et c'est là où je vous disais qu'on voit la différence entre celui qui est mort à lui-même et celui qui n'est pas mort à lui-même, parce qu'il y a une réalité spirituelle derrière ce verset. Un chrétien et un disciple de Christ est destiné à faire quoi, à votre avis? S'il a reçu la vie éternelle, il est destiné en tant que disciple à communiquer la vie éternelle. Mais qu'est-ce qui arrive lorsqu'il est encore dominé par ses pensées, par ses instincts, par ses mauvaises tendances? Ben, c'est qu'il va continuer à manifester des paroles, des attitudes qui sont complètement éloignées de la vie divine. Complètement éloignées de la vie divine. En fin de compte, il ne pratique pas la justice de Dieu. Pratiquer la justice de Dieu, c'est accomplir la pensée et la volonté de Dieu dans notre vie. Et là où je vous mets en garde, parce qu'en 1 Jean chapitre 2 verset 29, il est dit, si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Donc ça veut dire que si on pratique la justice, si on accomplit la pensée et la volonté de Dieu, on est né de Dieu. On a reçu l'Esprit de Dieu. Si on ne le fait pas, comme je viens de l'expliquer, on n'est pas né de Dieu. que je vous ai dit et je le dirai toujours, en premier épître de Jean, il n'y a pas de niveau de gris. Soit on est de Dieu, soit on est du diable. Il n'y a pas de réseau intermédiaire. En fin de compte, le chrétien est sauvé pour propager la vie que le Seigneur lui a donnée. Ce n'est pas de l'égoïsme, en fin de compte. C'est en fin de compte vivre la parole de Dieu dans notre vie pleinement et de montrer qu'il y a autre chose que les plaisirs de la vie sur cette terre. Parce que quand on voit où mènent les plaisirs de la vie, ça mène à la mort. Et nous, chacun ici, autant qu'on soit, on est nés de nouveau pour amener la vie nouvelle à ceux qui sont en face de nous. Quand je dis amener, c'est amener sur le chemin de la vie nouvelle, Jésus-Christ. Et si je veux amener cette vie nouvelle, il faut bien qu'un jour je ressemble à Jésus-Christ. Et que je ne ressemble pas à mon voisin, qui fait la fête tous les week-ends, qui picole comme un fou. Sinon, j'amène rien du tout. Et c'est là le mourir à soi-même. C'est là qu'il est important de comprendre le mourir à soi-même. C'est là où Jean 3, verset 30, il faut qu'il croie, c'est que je diminue, que je n'existe plus. Apprendre à mourir à soi-même, c'est apprendre à ce que l'Éternel prenne la place dans ma vie. Et se manifeste d'une façon magistrale. Et c'est indispensable pour le disciple qui a soif de marcher selon la volonté de Dieu. Si je dis je veux marcher selon la volonté de Dieu et je n'accepte pas de mourir à moi-même, rien ne se passera. Absolument rien. Parce que Dieu ne force pas. En fait, ça consiste à identifier dans notre vie les racines du mal, ce qui provoque en nous notre façon de vivre. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être, je suis méchant? Qu'est-ce qui fait que peut-être aujourd'hui, je suis égoïste? On en reviendra plus tard. Matthieu, chapitre 15, versets 18 à 20, « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. » Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Ce sont les traits de caractère, les mauvaises pensées, les tendances profondes qui caractérisent la nature humaine polluée par le péché. Vous savez, c'est les pharisiens qui faisaient une réflexion à Jésus, mais il dit, mais attends, ceux qui te suivent, là, ils mangent sans se laver les mains. Et pour eux, c'était incroyable. Mais Jésus n'était pas attaché à ce qu'il voyait. Jésus était attaché à ce qu'on fait. Il est attaché à ce qu'on fait. Il est attaché à ce qu'on dit. Et de cette là, c'est incontournable de s'humilier devant la sainteté de Dieu. C'est incontournable. En fin de compte, ça nous amène à reconnaître ce qui est mauvais en nous, souillé, pervers. Et par exemple, pour un croyant, ça peut être l'orgueil. Pour un autre, l'égoïsme. Pour un autre, la méchanceté, le manque de pardon, la tendance à rejeter les fautes, les erreurs personnelles sur les autres. C'est pas moi, c'est l'autre. La jalousie, la tendance facile à critiquer, la susceptibilité, le mauvais caractère ou le caractère dur. La volonté de dominer et de diriger sa vie, et bien sûr celle des autres, et souvent surtout celle des autres, parce qu'on se croit meilleur que les autres. L'intolérance, la rigidité, l'attachement aux choses de la terre. En Galates 5, verset 19-21, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Sacré palmarès, hein ? Il y a une vérité au bout. C'est qu'en fin de compte, quand vous regardez toutes ces choses, c'est on a évidemment quelqu'un qui n'est pas mort à lui-même. Quelqu'un qui existe toujours dans son ancienne vie. Et la fin ? Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'on n'est pas né de nouveau, puisqu'on commet encore ces choses. Et le combat qu'on a à mener, c'est pas du tout contre des personnes. C'est absolument pas contre des personnes. Mais c'est ni, par exemple, contre des circonstances, mais c'est souvent contre le péché qui sont dans ces personnes. Et souvent, qui sont en nous. Et qui influencent notre vie. Et qui influencent d'une façon ténébreuse notre vie. C'est-à-dire qui nous enlèvent de la lumière. Lorsqu'on fait ces choses-là, on recule face à la lumière et on revient dans les ténèbres. En Éphésiens 4, verset 25 jusqu'à chapitre 5, verset 2, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité, dans l'amour. À l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. C'est impossible de faire ces choses si on n'est pas né de nouveau. C'est impossible. On va peut-être savoir le faire une fois, mais après les choses naturelles reviennent. C'est impossible. La solution, c'est de mourir à soi-même. Et souvent, ce qu'on fait, c'est complètement vain. Ça ne sert à rien. La seule chose qui sert à quelque chose, c'est la sincérité et l'aveu de ce que nous faisons devant Dieu. Qu'est-ce que je fais devant Dieu ? Est-ce que je lui avoue les choses qui sont dans mes profondeurs ? Que Dieu connaît parfaitement, je vous rassure. Hein. Mais il aime qu'on lui dise. Et surtout qu'on lui demande, Seigneur, je veux en être débarrassé. C'est-à-dire que je ne veux plus exister pour ces choses. Je veux exister pour toi. Quand je dis ça, ça veut dire que j'accepte de mourir et que ce soit toi qui vives. La mort de Jésus à la croix nous permet de bénéficier du pardon des péchés. Et bien sûr, ça passe obligatoirement par une repentance profonde et sincère. Le pardon couvre et ôte le péché de nos vies. Mais il y a une chose qu'il ne fait pas, c'est qu'il n'enlève pas la racine du mal. En fin de compte, l'œuvre consiste à vraiment délivrer le disciple ou le croyant des tendances de péché. Et pour cela, il est nécessaire de mourir à Jésus-Christ. C'est obligatoire. Parce que cette racine qui est en nous restera toujours. Et si j'accepte de mourir, cette racine meurt avec moi. Voilà la différence. Parce que pour donner cette plante, qui est une mauvaise image bien sûr, la graine va complètement mourir. Essayez de retrouver la graine quand la plante sera grande, vous n'allez plus rien trouver. Vous allez trouver une plante. En 2 Timothée chapitre 2 verset 11, cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Et ça, c'est la réalité de la mort à nous-mêmes. On va vivre avec Jésus-Christ. Sinon, l'image que je vais vous donner, elle est excellente. Alain, il va aimer parce qu'il aime bien son jardin. J'ai plein d'herbes chez moi. Je prends, on appelle ça une herbraquette dans le patois, vous savez, et puis j'enlève que le vert, vous voyez, je gratte. Je reviens, Arlette vient un quart d'heure après, oh c'est magnifique, hein. Il n'y a plus rien, c'est propre, c'est nickel, je passe même un petit coup de râteau, c'est magnifique. Elle revient une semaine après, il y en a toujours autant. Pourquoi? Parce que la racine n'a pas été enlevée. Et c'est souvent ce qui arrive dans nos vies. On fait des belles prières à Jésus-Christ, on fait un peu le ménage, mais la racine est restée. Tout ce qui est dans nos profondeurs est resté. Toutes les racines sont restées. Et ça explose un jour, ça ressort. La solution la plus efficace revient à déraciner chacune des plantes. Chacune des mauvaises herbes. C'est la solution la plus efficace. On peut, sur le plan spirituel, c'est exactement la même chose. C'est quelqu'un qui se met devant le Seigneur, il dit « Seigneur, pardonne-moi pour mes fautes. » Le Seigneur, avec sa grâce et sa miséricorde, pardonne. Il sort, bim, patatras, il repêche. Oh ! Il se remet devant le Seigneur, « Seigneur, pardonne-moi pour mes fautes, cette faute-là que je viens de faire. » Le Seigneur, avec sa grâce et sa miséricorde, pardonne. La personne, troisième fois, bing, elle repêche. Toute sa vie, elle peut faire ça. Toute sa vie, elle peut faire ça. Pourquoi ? Parce que la racine n'est pas enlevée. Et c'est complètement idiot. C'est complètement idiot. Je peux passer des heures et des heures dans mon jardin si je fais toujours la même chose, que j'enlève pas les racines les unes après les autres. Ça va toujours repousser. Toujours repousser. C'est pour ça qu'on appelle, Paul a appelé ça, par exemple, la racine d'amertume. C'est la chose la plus effroyable qui puisse arriver dans le cœur d'un homme. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un baobab. La racine d'amertume dans le cœur d'un homme, c'est ça. Au début, c'est tout petit, après c'est immense, immense, immense. Et on ne voit que ça. Le Seigneur doit enlever. C'est en fin de compte l'acceptation de l'étape de mourir à soi-même. Si on ne le fait pas, on va toujours, et sans arrêt, on sera en train de demander au Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. On va être un tout petit chrétien. Tout petit chrétien. Et on doit renoncer chacun à ces pulsions charnelles, cette envie de pécher. Il y a ce verset qui dit « Approchez-vous de Dieu et le diable s'éloignera loin de vous ». Vous voyez, notre responsabilité, elle est là. C'est s'approcher de Dieu. S'approcher de Dieu comme Icare du soleil, c'est qu'à un moment donné, on meurt. Voilà, on est tellement proche de Dieu qu'on meurt. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui a pris la place en nous. On n'existe plus. Et c'est simplement que, à ce moment-là, le Saint-Esprit viendra dans notre vie et il va faire une œuvre parfaite, une œuvre profonde. C'est le seul moment où il pourra travailler, où on va laisser toutes les fenêtres ouvertes en disant, ben Seigneur, vide. Je veux être vidé de ma substance, c'est-à-dire ne plus exister. Et là, le Saint-Esprit va venir, il va poser son pied et il va vous remplir. Vous allez connaître la plénitude de l'Esprit. En Romains, chapitre 8, versets 13 et 14, deux versets extrêmement importants. « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. » Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est clair. Est-ce que je fais mourir par l'esprit les actions du corps? Est-ce que je laisse travailler l'esprit dans ma vie? Est-ce que j'accepte, lorsque l'esprit dit « mais ça, il faut l'enlever », est-ce que j'accepte de l'enlever? Si je n'accepte pas, c'est une désobéissance, bien sûr. Mais c'est aussi le fait que mon moi existe encore. Je veux encore contrôler ma vie. Et ça, c'est pas possible. L'objectif, et on l'a entendu dans certaines prières ce matin, pour le croyant, c'est de ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Et sans cette mort à nous-mêmes, c'est impossible, impossible. Jésus-Christ ne luttera jamais contre notre nature. Jamais, jamais, jamais. Est-ce qu'on a compris ça ce matin? Est-ce qu'on a compris que le Seigneur ne se battra jamais avec nous? Le Seigneur agira que lorsque nous allons obéir. C'est parfaitement l'image, vous savez, qu'on raconte souvent, la brebis qui est tombée dans un ravin, qu'elle est accrochée à des branches, et le berger vient le premier jour, elle se débat, le berger dit « je reviens demain ». Il a fallu attendre 5 jours, quand la brebis ne bougeait plus, pour que le berger descende et vienne prendre la brebis. Dans notre vie, c'est exactement la même chose. Mis à part que ça peut prendre, par exemple, 30 années, 40 années, parce que dans notre petite tête, on n'a toujours pas compris que faut arrêter de se débattre. Il faut arrêter d'exister pour que Dieu existe en nous. Et c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit viendra faire son œuvre. Et surtout qu'on va porter le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Quand on dit ça comme ça, on dit « ah ben moi je suis bon, moi je suis fidèle par exemple, moi j'ai la tempérance ». Non, 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 non. Le fruit de l'Esprit, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble. Si je n'ai, il m'en manque un, je n'ai pas le fruit de l'Esprit. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. En fin de compte, Paul l'a très bien expliqué aux Éphésiens et aux Colossiens. Si on lit Éphésiens 4, versets 20-23, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, c'est du moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. » Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Vous voyez que Paul l'explique également. Est-ce que on a été instruit à se dépouiller? C'est un ordre de l'Éternel. Lâchez tout. Lâchez tout. Lâchez tout ce qui concerne votre vie passée. Et surtout, vous êtes invité à être renouvelé dans l'esprit de l'intelligence. C'est-à-dire, vous êtes appelé à être quelqu'un d'autre. Vraiment quelqu'un d'autre. En fait, quand on décide à ce moment-là d'intégrer la nouvelle nature de Jésus-Christ dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'on n'existe plus. Pourquoi? Parce que ce n'est plus le moi qui dirige notre vie. Quand on est mort à nous-mêmes, on refuse toutes les manifestations charnelles qui se présentent. On est libéré des choses anciennes. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'on fait? On exprime les pensées du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez qu'on n'a plus à faire cette prière, « Seigneur, je veux te ressembler », puisque l'Esprit va faire en sorte qu'on ressemble à Jésus-Christ. Philippiens, chapitre 4, verset 8-9, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Donc ça veut dire que je ne pratique plus les choses qui me concernent, c'est que je pratique les choses de Dieu. Voilà ce que c'est en train de dire. C'est-à-dire que c'est plus moi qui dirige ma vie, mais c'est Dieu qui dirige ma vie. Et c'est Dieu qui amènera la paix dans ma vie. Dans la vie chrétienne, chaque victoire a besoin d'être entretenue et renouvelée. On a besoin d'entretenir tout ce qu'on fait, toutes les victoires. Et Paul donne une importance particulière au renouvellement de l'intelligence. C'est un renouvellement constant. En Romains 12, 2, je l'ai déjà dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui veut dire que c'est vraiment l'intelligence de Dieu qui doit être en moi, de telle manière que ce ne soit pas moi qui dit peut-être, le Seigneur m'a dit que, le Seigneur m'a demandé de, le Seigneur ne nous a rien demandé du tout. Ne vous inquiétez pas que le jour où le Seigneur va vous demander ou va dire que, vous n'allez même pas le savoir vous-même. Il va vous mettre à l'endroit où il veut vous faire travailler. Et ça fait drôle. Ça fait drôle parce que vous apercevez que il vous a mis là et vous n'avez rien à craindre. Parce qu'il vous arme au moment où il va vouloir vous utiliser. Et c'est ça l'importance de comprendre le mourir à soi-même. C'est ça l'importance de comprendre que si j'y vais avec mes petites armes de chrétien et toutes mes racines en moi, ça ne sert à rien. Je n'arriverai pas à accomplir le plan de l'Éternel. Tandis que si c'est vraiment l'Éternel qui vit en moi et que moi je n'existe plus, je n'aurai même pas besoin, à certains moments, de parler. Ma présence va suffire. Pourquoi ? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va couler au travers de vous. Et ça, c'est une réalité biblique. Le terme intelligent signifie mentalité, pensée, bon sens, sentiment, désir. C'est ce que le croyant a besoin d'expérimenter dans sa vie, un renouvellement constant de ses pensées. Constant. Un renouvellement constant de ses désirs. C'est-à-dire, ses désirs ne sont plus portés sur lui, mais sur les autres. Il devient réellement disciple. Souvent, et là, je vais vous dire, on verra comment vous allez réagir. Beaucoup de chrétiens prennent le baptême parce qu'ils ont été convaincus de péché. Voilà, je suis convaincu de péché, le Seigneur a changé ma vie, donc je suis convaincu de péché, je m'en repens et je demande pardon sincèrement à Jésus-Christ. On reçoit la vie éternelle de cette là. Mais combien se sont arrêtés à ce stade ? Combien se sont arrêtés au fait du baptême? Et souvent, malheureusement, dans nos milieux, beaucoup pensent que, on est sauvé au travers du baptême. Si on en est encore là, je vous arrête tout de suite. Vous êtes en mauvais chemin. Très, très mauvais chemin. Parce que ces gens vont suivre le Seigneur, tant bien que mal, avec une démarche et une marche extrêmement alourdie. Et je sais que je vais en faire rire quelques-uns, parce que derrière, il y a encore la remorque. Il y a encore la remorque. La remorque est pleine. Pleine de notre nature charnelle, pleine de nos pensées, pleine de nos désirs. Alors, au lieu de foncer vers notre vocation, on est là attiré comme des fous et on regarde derrière et on voit rien qui change. Tout ça parce qu'on a regardé que le baptême. Le baptême, c'est la première étape. Le baptême, c'est oui, je déclare aux autorités, ceux qui sont dans le public, mais aussi aux autorités du ciel, que je reconnais Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est que je veux le suivre de toute ma pensée, de tout mon cœur, de toute mon âme, jusqu'à ce que ce soit lui qui prenne ma place. Voilà la réalité du baptême. C'est ce que chacun en devrait déclarer le jour où on témoigne. Et combien de fois on voit des gens qui galèrent dans leur vie ? Moi, j'en ai fait partie. Combien de fois ? Et ô combien je regrette d'avoir perdu autant d'années. Parce que j'étais fait partie de ceux qui voyaient en baptême le salut. Mais j'ai dit, mais quelle erreur j'ai pu faire. Quelle erreur. Et en fin de compte, on empêche l'Éternel d'exprimer sa seigneurie en nous. Et on s'aperçoit pas que le vieil homme est toujours présent. Et que le vieil homme domine toujours. Le vieil homme dirige toujours nos pensées, notre vie. Mais le Seigneur, c'est bien que le dimanche. Les jours de la semaine, vous êtes comme les autres. Et c'est là où je vous ai dit tout à l'heure, on remarque la réalité d'une vie quand la personne est morte à lui-même. Il y a une différence majeure dans sa façon de se comporter. Vous avez des gens qui se disent chrétiens et vous apprenez qu'ils ont une vie qui est identique aux gens du monde, dans la façon de parler, dans leur façon de se comporter, qui acceptent les mêmes choses que les gens du monde. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, leur nature est toujours présente. Il n'y a rien qui a changé dans leur vie. Ils n'ont accepté que la première partie de l'Évangile. Oui, je reconnais Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Mais surtout, tu ne viens pas m'embêter dans ma vie. Tu ne viens pas changer ma vie. Tu ne viens pas faire en sorte que je te ressemble. Parce que tu comprends, je risque de perdre mon travail, je risque de perdre mes amis, je risque de perdre ma famille. Combien en sont à ce stade-là ? Mourir à soi-même, c'est ça. Mes bien-aimés, c'est accepter de perdre son travail, accepter de perdre sa famille, accepter de perdre ses amis. C'est ça, mourir à soi-même. Est-ce qu'on l'a accepté un jour dans notre vie, ça ? Ça fait mal, je vous dis. Ça fait extrêmement mal. Quand vous vous faites renier par votre mère, comme moi, par exemple, ça fait extrêmement mal. Mais je n'abandonnerai jamais Jésus pour ma mère. Ça, c'est clair. Mais est-ce qu'on l'a accepté dans notre vie ? Et c'est important de comprendre ces choses-là, parce que il est dit en Romains 6, versets 3 et 4, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ?» Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Se dire que si, par le baptême, oui, j'ai reconnu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, aujourd'hui même, je suis mort en lui et je marche en nouveauté de vie. C'est important de comprendre ça. Si cette étape n'est pas vécue avant le baptême, il est important de le faire rapidement aujourd'hui. Rapidement. Rapidement. Combien, avec Paul, on pourrait vous dire combien des fois on reçoit de frères et sœurs qui galèrent avec des choses qui traînent depuis des années. Des années. Et il suffit simplement de lâcher, de dire, bah, Seigneur, viens vivre dans ma vie. Et annihile cette vie. Que ce soit toi qui vive. Et en fin de compte, c'est obéir tout simplement. C'est obéir, accepter de lâcher les choses qui nous font vivre aujourd'hui. C'est accepter une vie qui va changer complètement. Et peut-être qui va nous obliger à faire des choses qu'on n'aime pas faire. Mais qui nous rendent un cœur léger, un cœur rempli d'amour, un cœur rempli de paix. Et regardez en Romains 6, versets 12 à 14, « Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, n'obéissez pas à ses convoitises, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Donnez-vous à Dieu, mourez à Dieu. » Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Est-ce que le fait d'apprendre qu'un jour, en se donnant à Dieu, le péché n'a plus aucun pouvoir sur nous, c'est pas réconfortant? Ben pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne le fait pas? Et ainsi, le disciple est affranchi de la tyrannie du péché. Et le péché n'a plus aucun pouvoir sur lui. Regardez, Moïse a vécu le dépouillement pendant 40 ans. Pendant cette étape, il a été transformé dans sa profonde nature. Vous connaissez l'histoire des 120 ans de Moïse. Les 40 premières années sont le symbole de sa vie charnelle. D'accord, tout ce qu'il a vécu en tant qu'homme. Les 40 suivantes sont le symbole du travail de l'Esprit, quand il s'est laissé travailler par l'Esprit de Dieu, qui lui parlait, qui lui a demandé des choses, qui l'a obéi. Et les 40 dernières années sont le symbole d'une vie soumise. Il a accompli le plan divin de l'Éternel, parce que l'Éternel l'a rendu capable de le faire. Ce n'est pas Moïse qui était capable de le faire. C'est que face à son obéissance, l'Éternel l'a rendu capable d'avoir cette vie soumise et de réaliser toutes les merveilles qu'il a réalisées. Il faut laisser le Saint-Esprit œuvrer dans nos vies. Si on ne le fait pas, ce n'est pas possible. Mais pour laisser le Saint-Esprit œuvrer, on lui ouvre la porte. Plus aucune barrière sur notre vie. Même s'il y a des choses sales qui sont mises au jour, je m'en fiche. La victoire est au bout du chemin. Et ces choses vont nous rendre capables d'être semblables à notre maître. Là, on va ressembler en Jésus-Christ. Alors, je vais conclure. Mourir à soi-même, vous avez bien compris que ce n'est pas une option. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut acheter en plus de notre location. Non, ça fait partie vraiment de la vie du chrétien. C'est une réalité spirituelle. C'est une vérité biblique. C'est l'effacement de notre Dieu avec un petit dé, notre moi, et de tout ce que représente notre vie aujourd'hui. C'est une évidence lorsqu'on refuse, c'est un frein à l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. En Galates 2:20, je l'ai déjà lu, « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » Je vis en Christ aujourd'hui. Il ne faut jamais oublier lorsqu'on parle du « moi », on parle d'orgueil, on parle de manque d'amour, on parle de manque de compassion. Et c'est l'inverse du fruit de l'esprit. Ce qu'on exprime actuellement, c'est le fruit du diable. Lorsqu'on est dans cet état de l'orgueil, manque de pardon, c'est le fruit du diable qu'on est en train d'exprimer. Et si on est d'aventure dans cet état ce matin, humilions-nous devant l'Éternel. Humilions-nous de toute grâce, humilions-nous. Humilions-nous. Pourquoi ? Parce qu'il y a une parole qu'il ne faut pas oublier, une parole qui est certaine et extrêmement grave, Et je terminerai par ce verset. 1 Pierre, chapitre 5. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Combattre l'Éternel de cette façon nous amène à une mort certaine. Mais pas la mort en Christ. La mort pour la GN. C'est clair. On va prier. Seigneur, c'est une évidence, Seigneur, que mourir à soi-même est important. Mais c'est ô combien difficile, Seigneur. Seigneur, on a besoin d'être renouvelé dans notre intelligence. Seigneur, que tu puisses faire tomber les écailles qu'il y a sur les yeux pour montrer l'évidence que ce monde se perd, Seigneur. Et Seigneur, tu as amené sur terre ta vérité. Et ta vérité, c'est Jésus-Christ personnifié. Seigneur, nous sommes chacun à prier. Je veux ressembler à Jésus-Christ. Mais Seigneur, on a oublié d'effacer notre personnalité devant Jésus-Christ. Aide-nous, Père, par ton esprit. Aide-nous à faire comprendre ces choses. Aide-nous à ce qu'on puisse s'humilier. Seigneur, on a besoin. On a besoin chacun, Seigneur, que ce soit toi qui prennes la place dans notre vie. On a besoin de cette réalité dans notre vie pour exister selon ta parole et pas exister selon ce qu'on croit. Seigneur, ton œuvre est parfaite en Jésus-Christ. Fais-la en chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus. Amen.